cadre des élections législatives anticipées qui arrivent, nous avons souhaité réaliser des interviews de chacun des candidats pour la première circonscription de Corrèze. Nous avons fait comme nous avons pu, dans le temps qui nous était imparti, comme les candidats eux-mêmes. Il y a donc des différences de qualité sonore, mais nous avons essayé tout de même d'être le plus juste possible en termes de temps et de sujets. Et nous espérons néanmoins que ces interviews vous aideront à y voir plus clair. Gilles Oguinena, candidat Reconquête. Bonjour Gilles Oguinena.
Bonjour monsieur.
Alors vous venez représenter le parti Reconquête aux législatives anticipées. Pour commencer, avant de parler du fond, on va faire un peu de politique politicienne. Dernièrement, là, avec l'annonce d'Emmanuel Macron, ça a un peu tout chamboulé. Il s'est passé beaucoup d'événements et notamment dans votre parti, il y a eu une grosse scission avec la tête de liste des Européennes, Marion Maréchal-Le Pen, qui a quitté le parti et qui a rejoint le RN. Il y a eu des grosses tensions avec Éric Zemmour, il l'a même exclu du parti, et aussi d'autres cadres comme Nicolas Bay et Guillaume Pelletier. Est-ce que vous considérez vous aussi que c'est une trahison? Quel est votre point de vue, vous, en tant que candidat de Reconquête ici en Corrèze?
Alors déjà, je voulais vous remercier de me donner la parole en tant que petit candidat, puisque j'entends petit candidat. Je ne suis jamais convié au débat politique, ce qui est quand même dommageable, puisqu'une fois de plus, la démocratie est bafouée. À partir du moment où on est en lice, on se doit de donner la parole même aux petits candidats. Donc je vais vous répondre concernant l'affaire de Marion Maréchal. Chez nous, Reconquête, c'est un parti de l'honneur, un parti droit, avec des valeurs. Les militants, je parle de la Corrèze, puisque les législatives, c'est la Corrèze. Tous nos militants, nos adhérents ont collé, tracté, gratuitement, par tous les temps, par tous les vents, tout ça pour un résultat, pour dire 48 heures après, on quitte le parti, on s'en va. Non. Nous, on a des valeurs républicaines, et surtout, moi, en tant qu'ancien militaire, avec une carte d'ancien combattant, 5e génération du feu, ces valeurs-là, on doit les respecter. Donc, je comprends complètement le positionnement de M. Éric Zemmour sur le fait qu'on ne peut pas garder des félons au sein de notre parti. Dernière chose concernant l'affaire ou l'aventure ou ce que vous voulez de Marion Maréchal, à la base c'est une lepéniste. Et on rejoint quoi? On rejoint la dynastie des Le Pen. Les Le Pen, on le voit bien, le parti a été créé en 1972. On change régulièrement et constamment changé leurs propositions. On est passé de l'écu, souvenez-vous, à la sortie de l'Europe. Maintenant, c'est bien, on revient dans l'Europe. Monsieur Jordan Bardella veut aller au pouvoir, mais veut pas. Pourquoi? Parce que derrière, il veut une majorité absolue, donc on a peur du pouvoir. On change son braquet sur l'islam. Alors, l'islam devient compatible avec la République. Chez nous, non. L'islam n'est pas compatible avec la République. Vous voyez, nous sommes, pour finir, nous sommes un parti droit, avec le sens de l'honneur et surtout pas de la trahison.
Et donc c'est quoi concrètement, à part ce que vous venez d'énoncer, qui vous distingue du RN? Juste pour que la chose soit claire pour tout le monde.
Ah déjà la matière grise. La matière grise, chez nous, on a des gens qui réfléchissent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de démagogie, ni d'idéologie, je vais y arriver. Je prends pour exemple toute la partie du programme économique. Nous avons un programme économique libéral, eux ils ont un programme économique de gauche. Une dette de 3100 milliards, le premier remboursement du poste budgétaire, ce sont les intérêts de la dette, 50 milliards, et ça va faire qu'augmenter. Bruxelles est en train de siffler la récréation, a dit stop maintenant, on va revenir sur des bonnes bases. On est à 5,5% de déficit sur notre PIB, donc vous voyez les marges de manœuvre. Donc nous, nous sommes réalistes, on ne propose pas, on ne dit pas tout le monde aura une maison individuelle, un voyage aux Bahamas. Et j'en passe et des meilleurs, voilà. Ça, c'est déjà une grosse différence notoire, la partie réflexion sur la partie économique. Ensuite, sur la partie immigration, on est beaucoup plus dur que le RN. Éric Zemmour avait mis tout ça en avant en musique lors de la présidentielle, parce qu'on a fait un raccourci et on a dit « Reconquête, c'est l'immigration ». Non. Dans notre programme, on avait le nucléaire, on avait les pensions de revalorisation pour les personnes âgées, on avait tout, on avait tout un panel, mais on a fait un focus sur l'immigration, voilà. Et qui a été d'ailleurs repris par nos amis du Rassemblement National. Je voulais juste dire sur cette campagne, parce que là, le RN, c'est pas mon ennemi principal, j'ai la Macronie face à moi. J'ai le pan islamo-gauchiste représenté par M. François Hollande, hein. Donc avec les homophobes islamo-gauchistes et antisémites, et de l'autre côté, la suffisance macroniste, je vais y arriver, représentée par M. Francis Dubois. Donc la Macronie, c'est quoi? C'est la déconstruction de la France. C'est si t'as pas d'argent, il faut aller acheter un costard. C'est les Gaulois sont réfractaires. C'est on n'a pas de culture française. Voilà.
Alors, juste, moi j'ai une question qui, je pense, beaucoup d'auditeurs vont se poser. Par exemple, vous dites que François Hollande et le Front Populaire représentent des idées antisémites.
Absolument.
Et juste à l'instant, vous m'avez dit juste avant que pour vous, l'islam n'est pas compatible avec la République.
Absolument.
Est-ce que vous considérez que la laïcité a deux poids deux mesures, ou alors il y a... Toutes les religions se valent et que chacune peut trouver sa place, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou l'islam.
Pour moi, les religions sont de l'ordre privé. J'ai une croix sous mon t-shirt. Est-ce que je l'ai arborée quand je suis rentré chez vous? Non.
Non, non.
Voilà. Donc la religion, c'est quelque chose de privé. Ça doit se faire en privé. On n'a pas à avoir, nos états religieux sur la place publique. Donc préservation de l'espace public. Tout ça, c'est du privé. Ça n'a rien à faire et ça évitera énormément de problématiques.
Mais est-ce que vous comprenez aussi qu'un discours contre les musulmans peut avoir des répercussions qui peuvent être aussi de l'ordre de passage à l'acte, qui peuvent être racistes?
C'est pas un discours contre...
Parce qu'on entend beaucoup la chose reprochée à la gauche, à tort ou à raison.
Oui, bien sûr.
Moi, je suis là pour poser des questions.
Je comprends parfaitement. Je sais, le journalisme est complètement objectif. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai bien compris. Non. Mais je veux dire, vous avez complètement raison. C'est une très bonne question. Non. Nous, c'est vraiment l'intégrisme. De toute façon, vous l'avez vu, on décapite des professeurs en France. Vous imaginez, on décapite des professeurs en France. Non, mais il faut bien se poser des bonnes questions. Donc, à un moment donné, vous avez suivi aussi l'actualité à Bruxelles en ce moment, pour le refus du match, vous l'avez vu, ça. Vous voyez, donc tout ça, non, à un moment donné, il faut ramener les choses dans l'ordre. On n'est pas contre les musulmans, mais nous sommes contre l'implantation de l'islam dans le domaine public, voilà.
Oui, c'est pour justement vous permettre de clarifier.
Je termine avec, quand j'ai tracté sur les marchés à Brive, je suis tombé sur des combattants, les Harkis, hein, donc qui ont combattu pour la France en Algérie, mais ils étaient pour M. Zemmour, vous voyez?
Oui,
pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'ordre, ils veulent vivre tranquille, ils veulent plus de coups de couteau dans la rue, on n'en veut pas de ça, voilà. La France, c'est pas ça, c'est le pays des Lumières et pas le pays des couteaux.
Alors, je vous propose qu'on se dirige vers les questions plus locales et plus économiques, etc.
Je vous en prie.
Notamment, une question qui est sur la bouche de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à la pauvreté et à la précarisation des gens? Il y a environ 15% des gens en France, en Corrèze, etc., qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 990 euros par mois.
Absolument.
Et ça monte jusqu'à 20-25% chez les moins de 30 ans dans le Limousin. Qu'est-ce que vous préconisez, si vous êtes au pouvoir, pour répondre à ce fléau?
Alors, comme vous le dites très bien, les pensions, c'est 1500, je regardais ça ce matin de mémoire, 1500 euros en moyenne, une moyenne avec, effectivement, vous l'avez parfaitement rappelé, avec des pensions à 700 euros. Une inflation galopante, donc les Français ont pris de plein fouet le conflit ukrainien, bon, les problématiques géopolitiques. Je vais aller faire une parenthèse sur les retraités. C'est les retraités et les jeunes, effectivement, vous l'avez dit, qui ont souffert le plus. Sachant que je vais prendre la partie retraités, c'est des gens qui sont indispensables dans notre société, puisque c'est des gens qui aident déjà leurs enfants et derrière les petits-enfants. Donc j'ai été une fois de plus bafoué par rapport au choc économique qu'ils ont pris. Je vais répondre à votre question. Et la seconde, les jeunes qui sont la richesse du pays. Les jeunes, c'est la richesse. Ces jeunes-là, il faut les aider. Quand vous voyez à l'Assemblée nationale, quand on voulait la gratuité des repas, ça a été refusé. Pourquoi? Parce qu'on a dit « Ah ouais, mais les riches vont en bénéficier ». Mais on s'en fout, les riches en bénéficient. Les jeunes, c'est les jeunes. Voilà. Vous parlez de vos cheveux, là, les cheveux longs, les cheveux courts. Mais c'est la même chose. À un moment donné, il n'y a pas à faire de distinguo. La première chose à faire, pour moi, c'est l'indexation des retraites sur l'inflation. Ça, c'est hyper important. On a vu, l'inflation a été galopante. On aurait indexé les retraites, là-dessus, ça fait des années, j'en parle, je suis retraité militaire, hein, donc je sais de quoi je parle. Ça n'a pas du tout suivi l'évolution des prix, hein, que ce soit les prix à la consommation, surtout l'énergie, hein, le gaz, l'électricité.
Oui, j'allais y venir.
Ouais,
juste après.
Le gaz et l'électricité, c'est pareil. Hein, voilà. Alors tout le monde se targue que l'électricité va baisser, le prix de l'électricité, en sachant que tout ça, on pourrait en parler, c'est depuis 2009, où on a fait l'ouverture à la concurrence de l'électricité et on a tué le nucléaire français.
Au niveau européen ?
Absolument, mais c'est l'Europe qui dirige. C'est l'Europe. Et donc les politiques sont en train de s'arranger la baisse des prix de l'électricité. Non, c'est la commission, je vais y arriver, le CRE, donc la commission... L'ER, je ne me souviens plus, de l'énergie qui vient de mettre en place au niveau européen par rapport au marché. C'est les marchés financiers, hein, c'est le prix du baril ici et ça. Et voilà, le prix de l'électricité va effectivement baisser. Mais là, par exemple, moi, personnellement, en tant que citoyen, je viens de prendre 11% par Total Énergie hier. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est la finance qui dirige. Et je vous rappelle, hein, par rapport à la dette ici et ça, les marges de manœuvre vont être extrêmement compliquées.
Et comment on fait, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour éviter que les factures augmentent encore et encore ?
Ah bah, il faudrait sortir de ce système où on adosse le prix de l'électricité aux centrales gaz allemandes, puisqu'à la base, vous le savez, hein, c'est pris sur la dernière consommation de la centrale gaz en Allemagne, et bah, qu'on arrête ça, quoi, qu'on sorte de cette histoire. On a une autonomie avec notre patrimoine nucléaire, payé par l'argent public, hein, je rappelle, hein, payé par l'argent public. On a ce qu'il faut. D'ailleurs, vite fait la parenthèse, le gouvernement hollandais avec M. Macron qui était à l'époque à Bercy voulait démanteler notre outil nucléaire qui a été mis en place et l'héritage gaulien. Donc ça, c'est une catastrophe. Donc là, ils en sont revenus. Hein, ils ont dit, voilà. Mais il faut sortir, comme a fait l'Espagne, hein, et le Portugal, de mémoire. Ils ont dit, bon, stop maintenant. Alors c'est sur une période, mais on sort de ces accords. Et on revient sur notre souveraineté énergétique et ça se passera très bien parce qu'on a les moyens, on a tout.
Alors, je propose qu'on passe sur le sujet de l'agriculture.
Ah oui, ça m'intéresse très.
Qui intéresse beaucoup de Coréens aussi.
Ouais, alors là, parlons-en de l'agriculture.
Alors là, on a vu qu'il y a une mobilisation qui est encore repartie des agriculteurs parce qu'ils n'ont pas reçu les aides de la PAC 2023 et qu'ils les attendent déjà depuis 2 mois qu'elles avaient été promises par le gouvernement. Elles ne sont toujours pas arrivées. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ?
Le gouvernement vient de faire machine arrière, vous l'avez suivi, sur les 10 milliards qui devaient être injectés. Donc machine arrière, parce que Bercy a dit, l'Europe a dit, attention, Maastricht, 3%, 5,5%. Donc je répète, hein, les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. C'est pour ça que attention aux partis politiques avec leur idéologie, on va faire ci, on va faire ça, oui, on va faire ci, on va faire ça, sans argent. Concernant l'agriculture, je connais bien l'agriculture parce qu'habitant à Perpezac-le-Noir, je connais beaucoup d'agriculteurs, j'ai travaillé, conduit des tracteurs, bref. Ils ont déjà été floués sur le GNR, sur la partie énergétique, la partie pour les tracteurs et tout. Vous avez suivi, normalement, il devait y avoir le gel des prix et ci et ça. Malheureusement, le GNR a augmenté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? ça monte. Donc, ce qu'ils avaient gagné, ils l'ont perdu. Derrière, forcément, ils ont vu qu'ils sont complètement floués par rapport aux aides de la PAC. Alors, déjà, à partir du moment où vous mettez à la FNSEA un patron qui s'appelle Rousseau, qui est patron d'April, ça ne peut pas le faire, ça ne peut pas gagner.
Les conflits d'intérêts pour vous.
Mais bien sûr, ça ne peut pas gagner, exactement. Mais c'est comme en politique. Un député, c'est 7000 euros par mois, un député. C'est pour ça que tout le monde se bat. Moi, j'ai dit, j'y vais gratuitement, on me paye le transport et l'alimentation, il n'y a aucun souci. Le but, c'est de travailler. On le voit là, c'est que de la boutique, c'est que de l'argent. Il faut casser ce système où ces gens sont trop payés. C'est incroyable, 7000 euros et comme vous l'avez dit, des retraites à 700. C'est pas possible, c'est plus possible. Alors, je reviens sur l'agriculture. Donc, le libre-échange, soi-disant, les accords du Mercosur, ça continue. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ?
C'est l'Europe.
Donc, il faut sortir de l'Europe pour ça ?
Non, sûrement pas. Non. Mais il faut une Europe des nations et pas une Europe fédérale. Mais c'est mal parti. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient renverser la table. Et là, je vois que Mme von der Leyen, qui a tous les pouvoirs, qui gagne 30 000 euros par mois quand même. Hein. Accessoirement, hein, 30 000. Bon, bref. Et serait reconduit. Donc, on va continuer dans le libre-échange. On continue. Non, il faut vraiment... la problématique, c'est qu'on est lié à l'Europe. Il faut que la France reprenne sa souveraineté. et dit eh ben, qu'on ait un poids politique, mais que les politiques arrêtent de faire du clientélisme et soient là pour les intérêts des Français, et pas pour leur intérêt. C'est ça qui m'énerve, vous voyez ce que je veux dire ?
Et est-ce que vous avez d'autres mesures aussi au niveau du revenu ? On parle d'un revenu décent pour les agriculteurs, c'est vraiment leur priorité, c'est la mesure qu'ils attendent le plus. Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus ?
Alors, concernant le revenu, bah déjà qu'on tout ce qui est production française soit utilisé, bah c'est déjà fait avec les lois Egalim 1, 2, 3, en partie, hein, attention, hein. Que les agriculteurs soient rémunérés par rapport à leur travail. Moi, je connais énormément d'agriculteurs, malheureusement, ils sont obligés d'avoir un double emploi. Ils font l'agriculture, c'est-à-dire veau sous la mer ou du broutard, et derrière, ils renchaînent dans des usines. Ils n'ont plus de vie, ces gens-là. Ils ont plus de vie, c'est donc non, il faut vraiment que les produits français soient remis en valeur, qu'on aide. Vous l'avez dit, l'État n'aide plus là, ils se sont désengagés. Le bio, c'est pareil. Le bio, il y a plus d'argent.
Donc il faudrait financer ces filières.
Mais faut les aider. Mais par contre, moi j'ai lu, hein, vous voyez, je suis pas plus intelligent que les autres, mais je lis la PAC. La problématique, c'est que la PAC est mal distribuée. Moins tes Chandon a des subsides. Européen. Non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc pourquoi les gros céréaliers, pourquoi parce qu'on veut faire mourir cette petite agriculture au profit de la grosse agriculture intensive. Je l'ai vu encore un article, là ils veulent implanter je ne sais plus combien de... une usine avec des poulets partout. Bon bref, derrière les maladies pour les animaux, mais il y a les maladies pour l'être humain, parce que tout ça, c'est transverse. Ça veut dire que ce qu'on va manger va nous amener des cancers, ici et ça. Non, il faut revenir sur quelque chose de sain. Il faut payer dignement nos agriculteurs par rapport aux produits. Et voilà, on revient à des choses intelligentes. Mais enfin, bon, moi, je sais pas, je travaille, ben, il faut que je sois payé normalement. À partir du moment, c'est la base, quoi, je veux dire.
Et un autre sujet qui touche un peu le milieu agricole, c'est l'agroforesterie. Qui est très présente en Limousin et qui a un vrai enjeu ici. On parle beaucoup des coupes rases dernièrement.
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Parce qu'il y a un vrai.
Alors, le premier chercheur de champignons, moi-même, hein, donc la forêt de Blanchefort à côté de Perpezac-le-Noir vers Ruzerche, on a eu une coupe rase. Alors, il y a deux choses sur cette affaire. C'est que la coupe rase, vous avez les souches qui restent au sol. Donc, vous avez des rejets partout. Ça veut dire que la forêt s'est terminée, impénétrable. Et derrière, vous avez les engins. C'est des ornières, mais des ornières, pas des ornières de 10 cm, des ornières énormes. Non, ben c'est pareil après. Mais c'est toujours une histoire d'argent. On plante du résineux partout. Pourquoi ? Parce que le résineux pousse plus vite, d'une part. Et beaucoup plus rentable. Mais derrière, avec l'acidité, ça amène de l'acidité dans les sols, ça tue. Non, une forêt, c'est comme une population. Il faut une diversité. À partir de là, c'est toujours une histoire d'argent. Donc, effectivement, vous avez complètement raison. Il faut remettre ça en avant. Et il faut un contrôle, quoi. Il faut de l'intelligence. Il faut que les gens... On a des gens qui sont payés pour ça, pour suivre. Mais pas comme on fait, là, c'est à la sauvage. Et c'est toujours la recherche du profit. Il faut qu'on revienne, faut qu'on arrête avec ce profit, mais on revienne sur des choses saines, de manière à préserver justement cette nature, parce que la nature, c'est notre mère nourricière, et surtout la préserver pour nos enfants et nos petits-enfants.
Alors, on voit bien qu'il y a des politiques quand même qui essaient de pousser d'avoir une diversité d'essences dans les forêts, mais il y a beaucoup d'experts, de scientifiques qui disent que ça ne va pas assez vite. Comment concrètement on fait pour forcer ou pousser les exploitants ou les propriétaires à aller vers ce modèle ?
Alors vous avez répondu, hein, ça va pas assez vite. Ouais, la pousse d'un chêne.
Mais justement, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on fait pour leur imposer ça ?
Ben voilà, on revient sur la macroéconomie. La pousse d'un chêne, c'est combien d'années par rapport à un résineux ? C'est une très bonne question. Mais il faut inciter, comme l'autorité dans une famille, on leur laisse pas le choix. À un moment donné, un État fort, c'est un État autoritaire, c'est pas un État de dictature, hein, mais on doit être fort, on doit dire, pour la préservation de la biodiversité, vous planterez moins de ci, moins de ça. Il y a quand même un département, le département, il y a la région, il y a toutes ces instances, il y a des gens qui sont payés pour ça. Là, il se passe quoi alors ?
Ça veut dire que si les personnes ne respectent pas ça, on les sanctionne ?
Absolument. À un moment donné, on doit sanctionner les gens. C'est comme dans une famille. Hein. Il faut des règles. De toute façon, on le voit, la problématique en France, c'est qu'il n'y a plus d'éducation. On a redonné l'éducation à l'éducation nationale. C'est presque une redondance. Et non, l'école, c'est le savoir et l'éducation, ce sont les parents. Et là, c'est pareil. Hein. L'État, il doit être fort. Hein. Il doit dire, bon, maintenant, on arrête. Hein. Parce que si on ne le fait pas, si on n'amène pas justement cette contrainte, vous l'avez dit, ça va être... De toute façon, les forêts sont mortes. Ça veut dire qu'on n'aura plus le plaisir d'aller en forêt. Les tiques aussi, il y a des tiques partout maintenant. C'est une catastrophe. Non, mais... Parce que la problématique, dans la... vous l'avez dit aussi, c'est le changement climatique. Vous avez vu, là, on est au mois de juin, là, c'est comme la politique, hein, triste et instable. Hein, c'est la même chose, hein, on est sur le même portage. Mais tout ça, il faut le prendre en compte. Je regardais sur le vignoble bordelais, ils vont être obligés de décaler le vignoble. Il y a des vignes qui sont arrachées. Je veux dire, on est dans un changement majeur, mais pas dû à la France. Pas dû à la France. Ce qui m'énerve aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une intelligence. C'est de la géopolitique, c'est mondial. C'est-à-dire, qui c'est qui pollue le plus dans le monde ? C'est la Chine, les États-Unis et l'Inde. C'est pas la France. Hein. La France, on est vertueux, on a le nucléaire, on a ci, on a ça. Voilà.
Bah c'est donc si l'Union européenne qui
mais
peut
bien
être
sûr, mais bien sûr. Si on raisonne en micro, j'allais dire en micro, on n'y arrivera pas. C'est un effort collectif, mondial. Parce que la planète, c'est pas seulement la France. Voilà.
Et justement, une autre crise qui est liée au changement climatique, c'est la crise de l'eau, la crise hydrique, qui touche particulièrement la Corrèze. On a vu depuis plusieurs années, sur le plateau de Millevaches notamment, des communes où on n'a plus d'eau au robinet, où on va servir à des citernes qui viennent apporter de l'eau. C'est pas une situation tenable pour les personnes qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous êtes élu ?
Alors, la problématique de l'eau, alors on a la chance d'avoir des barrages hydroélectriques chez nous. On a quand même le plateau... C'est les mille sources, hein. Ce qu'on fait, alors, l'histoire des bassines, vous voulez m'amener là-dessus, non ?
Non, je vous laisse libre de votre réponse.
D'accord. La problématique des bassines, c'est très bien, hein, il en faut, mais sans pomper dans la nappe phréatique. À partir du moment où on pompe dans la nappe phréatique avec les bassines, c'est complètement inopérant. Non, il pleut, vous avez
oui,
pu voir.
Oui, c'est pas le bon moment pour en parler.
Mais... En ce moment, c'est la saison des pluies, on est pratiquement en Guyane. Ouais. Hein, là. D'ailleurs, je commençais à planter du riz à la place des tomates dans mon jardin. Voilà. Donc, je veux dire, cette pluie qui tombe, c'est du providentiel, il faut arriver à la capter. Donc, pour la capter, il faut créer des zones de rétention. Et ça, c'est faisable. Hein. Voilà, ils le faisaient, les Romains. Les Romains le faisaient, les Gaulois. Hein. Vous allez sur Argentat, ils ont des espèces de citernes sur leur lopidum. Là. Donc, tout ça, c'était déjà bien connu. Donc, il faut capter cette eau qui tombe et arrêter de la laisser ruisseler à fond perdu, puisque derrière, il y a les problématiques des inondations. Mais ça, c'est un pan intéressant, parce que c'est là qu'on voit que les chasseurs et les agriculteurs ont un rôle important dans l'écologie. Voilà, tout est lié, quoi. C'est tout un ensemble. À chaque fois, c'est tout un ensemble.
Et alors, j'aimerais vous poser une question sur le milieu associatif.
Je vous en prie.
Je pense que vous devez savoir qu'il y a une loi qui a été passée au niveau de la loi séparatisme par Macron. Et adossé à cette loi, il y a un pacte d'engagement républicain qui a été apporté aux associations pour forcer les associations à respecter certaines règles. Alors, on en pense ce qu'on veut. Maintenant, on a vu certaines applications de cette loi par les préfets, donc c'est au bon vouloir des préfets, pour, on va dire, utiliser ça comme un outil politique contre certaines associations qui ne sont pas forcément d'accord avec le pouvoir en place. Moi, je ne me mets pas là-dedans, mais il y a une inquiétude de voir certains partis comme le vôtre ou le RN qui pourraient utiliser ça à des fins politiques. Et donc j'aimerais juste, je préfère voilà, que chaque chose soit mise sur la table.
Ne me mélangez pas avec le RN, j'ai une identité complètement propre.
Alors,
je vais vous répondre, hein, bien sûr. Chez nous, c'est les idées, la lutte des idées, la confrontation, c'est ça l'intelligence politique. Donc on n'a pas à dire lui il n'est pas bien, lui il est bien. Non, il faut la parole, la preuve vous me la donnez. Alors qu'on me refuse sur les débats politiques. Vous me la donnez, vous. Donc, ça, c'est super. Donc, si on fait ça, c'est une dictature. C'est de la dictature. Ça veut dire, lui, il est bien, donc lui, il n'est pas bien. Non, tout le monde a droit à la parole. De toute chose, de toute association, de ci, de ça, il y a toujours des bons éléments. Et d'ailleurs, c'est comme en politique. Hein. En politique, vous avez tous les partis. Vous avez la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ce que vous voulez. On réunit tous ces gens-là. Et on arrive à en sortir une essence, l'essence intelligente pour les intérêts du pays. Voilà, on est des êtres humains, mais je reviens, c'est toujours la même musique. Non, non, mais les associations.
Non, mais voilà. Je vous en parle parce qu'on se sent aussi concerné et on aimerait avoir une réponse claire sur tout ça.
Non, il faut que vous existiez, c'est super important, surtout au niveau local. Ça veut dire quoi alors? On va avoir une dictature? C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre la parole, il va dire bah, ça c'est bleu. Ah bah c'est bleu. Bah non, justement, moi je veux pas ça. Moi je veux le débat des idées, c'est ça.
Parce qu'on a vu par exemple qu'il y a une association près de Poitiers qui a été dont on a coupé les subventions parce qu'elle faisait a proposé des ateliers de désobéissance civile au niveau de l'écologie. Est-ce que des choses comme ça pourrait arriver si vous arrivez au pouvoir?
Alors, désobéissance civile, c'est autre chose. Je veux dire, le débat des idées, mais dans un cadre pacifiste. C'est-à-dire
Mais désobéissance civile ne veut pas dire violence non
ah,
plus.
D'accord, non, mais voilà, qu'on soit d'accord. Non, non, mais je, ouais, non, mais voilà. Non, non, mais c'est très bien. Mais voilà, ben après, ben, il faut parler avec les gens, avec les différentes associations, en tirer les conclusions. Mais non, il faut pas, surtout pas. Non. La France, c'est le pays des libertés, c'est une démocratie. On n'est pas en dictature, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais je répète, dans le pacifisme, c'est-à-dire qu'après, on va pas prendre des battes de baseball, taper sur les gendarmes ici et ça. Non. Mais en revanche, je trouve ça dommageable parce que tout de suite couper les vivres. Alors on coupe les vivres à tous les politiciens alors qui ont rien fait pendant 40 ans. Et pourquoi on les rend pas responsables? Il devrait y avoir une loi d'ailleurs pour responsabiliser les hommes politiques. Dire bah, qu'est-ce que t'as fait pendant ton mandat? Rien. Eh ben mon gars, tu rembourses. Non, oui, mais pourquoi dans un sens et pas dans l'autre?
Non,
moi,
je
vous réponds.
C'est le seul métier dans France qui est protégé par la Constitution sur.
C'est incroyable. Et le seul métier où vous avez pas de compte à rendre. Et le seul métier où les hommes politiques disent ils sont courageux. Moi aussi, je suis courageux. Je prends votre argent, je dépense tout et je dis allez. Je suis quelqu'un de courageux quand même, c'est vraiment extraordinaire. Ben voilà quoi.
Alors j'aimerais terminer sur une dernière question.
Je vous en prie.
Celle de l'identité, pas nationale, mais régionale.
Oui.
Je sais que vous êtes attaché à l'identité nationale, mais on va parler de régionale. Il y a un vrai attachement ici dans le Limousin à l'identité occitane, et notamment
absolument.
En Corrèze. Mmh. C'est en train d'essayer de. Il y a une vraie action associative qui se met en place pour essayer de la faire préserver. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous arrivez au pouvoir, pour essayer de la préserver, justement, cette identité, cette culture et cette langue?
Ah, bah, c'est toujours par le biais des associations. Je veux dire, cette culture française, vous avez les Bretons, vous avez les Basques, moi je suis d'origine basque espagnole, vous avez les Corses, non, tout ça c'est, voilà, toutes ces spécificités, il faut les conserver, donc on aidera par le biais des associations, mais en revanche, la primeur, bien sûr, c'est la France, le drapeau français, je voyais encore, on a brûlé encore un drapeau français, non. Mais derrière, les identités doivent demeurer, bien sûr. C'est ce qui fait la spécificité française. Je vais y arriver. De toute façon, quand Jules César, la guerre des Gaules, les tribus gauloises n'étaient pas d'accord. Hein. Vous avez suivi, il y avait des entités partout. Hein.
Ils se sont fait massacrer.
Voilà, il y avait les Lémovis, tout ce que vous voulez. C'est pareil. Et pourtant, on n'a pas dit non. Il faut que la France soit la France. Mais derrière, conserve ses identités. C'est comme les associations, on revient toujours sur la même thématique. Tout est lié.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Ah, c'est un vrai plaisir. C'est génial de m'avoir donné la parole. Et puis voilà, et puis ma foi, adviendra ce qui adviendra, mais je peux vous dire, je ne lâcherai rien pour la Corrèze. Ma terre, je suis venu en Corrèze par amour et je resterai par amour en Corrèze. Voilà. Merci beaucoup.
Eh bien, on vous souhaite bon courage pour les élections.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos entretiens avec les candidats sur le site internet de Bram FM.